C'est France Culture que vous écoutez. Nous achevons notre semaine consacrée à William Faulkner dans la compagnie des auteurs avec l'écrivain Pierre Bergougnoux. Et pour entamer cette seconde partie, voici un extrait du roman Sanctuaire lu par Alexandre Pavlov.
Il enfila le corridor et se dirigea vers l'escalier. Il ne se rendit compte qu'il courait qu'en entendant une voix de l'autre côté d'une porte s'écrier « Au feu, s'éteint !» Mais il était déjà loin. Horace quitta l'hôtel en courant et arriva dans la rue. Devant lui, le patron venait de sortir et courait aussi, grotesque et trapu, retenant son pantalon par devant, tandis que ses bretelles ballottaient sur ses mollets sous sa chemise de nuit et qu'une mèche de cheveux ébouriffés se dressait en désordre sur son crâne chauve. Trois autres hommes passèrent au pas de course devant l'hôtel. Ils semblaient venir de nulle part, surgir du néant, à longues enjambées, tout habillés au milieu de la rue et au pas de course. « C'est un incendie », se dit Horace. Il aperçut la lueur sur laquelle la prison profilait sa silhouette massive et farouche. « C'est dans ce terrain vague », fit le patron de l'hôtel tout en retenant son pantalon. « Je peux pas y aller parce qu'il y a personne à la réception. » Horace passa sans ralentir. Devant lui, il vit d'autres silhouettes courir également et tourner dans une ruelle proche de la prison. Puis il entendit le bruit du feu, le fracas rageur de l'essence qui brûle. Il tourna à son tour. Il aperçut la lueur au milieu d'un terrain vague où l'on remisait les charrettes les jours de marché. Sur le brasier, des formes noires se silhouettaient fantastiquement. Il entendit des cris haletants. À un moment, la foule s'écarta et il put voir un homme faire demi-tour en courant, tout en flammes, sans lâcher le bidon de pétrole de 25 litres qui, dans sa fuite, explosa entre ses mains avec un bruit de pétard.
Que retenez-vous de ce court extrait de Sanctuaire, Pierre Bergougnoux ?
Il est à sa petite échelle suprêmement représentatif du bouleversement que William Faulkner a introduit dans l'idée qu'on avait accoutumé de se faire jusqu'à lui de la réalité.
Celui-là peut-être moins que d'autres. Celui-là paraît presque pas réaliste évidemment, mais enfin sans doute moins que le bruit et la fureur, novateur dans son énonciation.
Il ne se rendit compte, c'est les premiers mots qui viennent d'être lus. Il ne se rendit compte de ce qui était en train de se passer que lorsqu'un cri lui parvint. Mais la vie, lorsqu'on y fait réflexion, mais ça nous a échappé longtemps. Est ainsi faite que la conscience est toujours à la traîne de l'existence. La plupart des situations dans les pays développés, relativement paisibles, comme l'est le nôtre, la situation habituelle nous permet de nous faire une idée assez exacte de ce qui est en train d'arriver. Mais dans un contexte aussi différent du nôtre que pouvait l'être, par exemple, un quelconque État du Sud américain à la fin du siècle, du 19e siècle au début du 20e siècle, les rapports entre l'existence et la conscience étaient éventuellement beaucoup plus problématiques. On fout le feu à des bâtiments, on essaie de lyncher les noirs, on règle encore un certain nombre de différends avec le revolver ou le couteau ou le fusil. Et Faulkner a perçu ce qu'il y avait d'inadéquat dans la formalité littéraire qu'il avait recueillie de la vieille Europe. Et le contexte encore sauvage dans lequel il se trouvait immergé et dont il avait élevé la prétention criminelle, allons-y, de rendre compte et raison dans cet ordre, dans ce registre qui est celui de la littérature, de l'expression littéraire. Et j'ai trouvé que ce qu'il disait là de l'incendie était très exactement dans le ton qui est le sien. Et qui traverse toute son œuvre depuis, oui, le bruit et la fureur, jusqu'à ses larrons qui sont imprimés la veille ou le surlendemain, je ne sais plus, de son décès en 1962. C'est lui. Faulkner est immédiatement reconnaissable.
Donc c'est une chance pour lui d'être né là où il est né et d'avoir été entouré de paysans pauvres,
oui.
et d'avoir été entouré d'une forme de précarité.
Oui.
qui justement là, a favorisé cette émergence de cette littérature-là.
Il y a ça, il y a cette rusticité, grossièreté, brutalité d'un certain contexte. Il faut ajouter autre chose, qui est la couleur politique du Nouveau Monde. C'est une démocratie, et en particulier dans les États du Sud ruraux, quelqu'un qui veut raconter des histoires pour citer ou parodier Faulkner ne pourra pas ne pas partager la vie de la petite communauté d'action, de croyance, de conviction, faite pêle-mêle de cultivateurs de coton, de petits commerçants auxquels il faut ajouter les anciens esclaves noirs que la guerre de sécession a délivrés, le shérif, bien évidemment, le redoutable Hub Hampton, je crois que c'est encore son nom dans les romans de Faulkner, qui s'est fait la réputation d'arriver à arrêter un lièvre à la course avec sa Winchester 30-30. Ce qui fait que les lyncheurs qui sont en train de tourner autour de la prison municipale hésitent à s'approcher trop parce que par la porte entrebâillée, ils voient Hub Hampton en train de lire des comics, mais avec la carabine Winchester posée juste à côté de lui. Donc tout a pu contribuer à faciliter la vie de Faulkner. Et ce qui est troublant, c'est que c'est de manière, pour nous Européens, très paradoxale. Quoi cette sauvagerie? Quoi cette population de gueux à moitié analphabète, de voyous, de distillateurs, de whisky, de contrebande? Oui, mais Faulkner est au contact immédiat. Il est immergé dans cette communauté. Alors que pour prendre des exemples, en Europe occidentale en général, et à Paris en particulier, à la même époque, les écrivains sont des gens qui habitent les beaux quartiers, dans des appartements feutrés avec des tentures, j'imagine, de reps à embrasse, avec des glands dorés, du mobilier torturé, là, Henri, quelque chose, qui n'ont aucune espèce de rapport avec, par exemple, les classes laborieuses qui sont d'ores et déjà reléguées sur la périphérie.
Donc ce que vous dites, pour le schématiser, c'est qu'au fond, la créativité européenne aurait décliné parce que l'Europe aurait été dans trop de confort, d'une certaine façon. Le confort aurait tué la créativité ?
Le confort est à sa manière un effet de la division du travail ou de l'inégalité des conditions dans les sociétés européennes développées. Les gens qui habitent les beaux quartiers, c'était le titre, je crois, d'un roman d'Aragon des années 30. Et puis, ceux qui produisent la richesse, les classes laborieuses, le prolétariat ouvrier, avec lequel les écrivains, en principe, en Europe occidentale, n'ont pas de rapport. Et je pense que c'est l'ultime séquelle de cette division du travail qui a mis aux mains de quelques-uns le sens de tous et qui, vers la fin, au début du XXe siècle, a pour effet que ceux qui ont la haute main sur l'expression sont complètement séparés de l'expérience et n'ont plus rien à raconter.
Et en même temps, Faulkner lui-même disait de l'Amérique que le succès dans son pays se mesurait en dollars uniquement.
Oui, bien sûr, il n'a pas tort. Il a tout à fait raison, le capitalisme s'est implanté sur le sol américain et il n'est pas de citoyen de ces États qui ne soit acquis au principe de l'économie en vue du profit. N'empêche que il n'y a, semble-t-il, rien de véritablement incompatible entre aucun des successifs modes de production qui sont succédés d'un côté et la littérature de l'autre. Bon, Homère, mais les grands écrivains grecs du 5e siècle vivent sous un mode de production qui est esclavagiste. La féodalité a pu donner des œuvres du premier rang, par exemple en Angleterre, mais en France. Le capitalisme a livré ces œuvres extraordinaires que sont les romans de Stendhal et de Balzac. Et la littérature n'est jamais que l'expression hautement élaborée de l'expérience. Et il n'est point d'expérience dont les bipèdes pensifs que nous sommes ne puissent rendre compte et raison à charge pour eux de ne pas se tromper sur ce qu'ils ont l'intention de raconter.
C'est une question hautement difficile pour vous, Pierre Bergugno. Est-ce que avec Faulkner, c'est aussi la fin de l'histoire de la littérature, ou est-ce qu'on peut anticiper? Sans doute non, mais enfin, poser la question, c'est déjà mettre quelques éléments sur la table. Anticiper une nouvelle rupture dans la manière de raconter les histoires, de représenter le monde. Qu'est-ce qu'il y a après Faulkner, puisque vous avez fait jusqu'à Faulkner?
Je ne sais pas. Je vois très bien en quoi Faulkner constitue un achèvement. ce qui était comme en germe ou en attente dans la grande narration rationnelle inventée par les Grecs, par Homère, trouve une sorte d'accomplissement vers 1927 de l'autre côté de l'Atlantique. À savoir que nous voyons apparaître sous nos yeux ce qu'il faut s'y référer, Husserl l'appelle le monde effectivement éprouvé. Non pas cette chose tierce, étrangère, que posent les narrateurs classiques, mais ce qui s'impose aux hommes et aux femmes que nous sommes, en tant que nous le vivons, mais que pour d'obscures raisons, nous nous étions trouvés dans l'impossibilité d'expliquer jusqu'à cette année 1927. Ensuite, je ne sais pas. Cela se fera sans que celui qui l'accomplira ait conscience d'avoir fait un pas supplémentaire dans ce qu'on pourrait appeler le pays de notre sens, pour citer encore un vieux grec, Héraclite. Je crois que la formule est « Nul homme ne parcourra jamais en totalité le pays de son âme ». Je pense que un certain nombre de ceux qui nous ont devancés se sont déjà avancés fort loin dans cette mystérieuse contrée.
Mais vous-même, quand vous écrivez, vous avez à l'esprit cette recherche, cette volonté de rupture et de faire progresser. Alors, c'est pas le mot de progrès qu'il faudrait employer, parce que c'est un jugement de valeur, mais d'imaginer ce qui pourrait succéder à Faulkner, après Faulkner.
Je ne suis pas animé par une volonté de rupture. Je m'efforce simplement de tirer dans cette clarté qui n'est que de nous, et en l'occurrence de la littérature, des choses qui me sont douloureuses à proportion de ce qu'elles étaient et me demeurent mystérieuses. Pour les tenants de la culture rationnelle que nous sommes, le monde est une énigme. À la différence, par exemple, des cultures animistes, qui créditent les bêtes, les plantes, les roches d'une culture, la nôtre, qui est naturaliste, qui est rationnelle, pose que le monde nous est étranger, mais que, au prix d'une inspection méthodique de l'esprit, nous pouvons lui extorquer son secret. Nous sommes à nous-mêmes une énigme. Nous pouvons former le projet, ou éprouver le besoin de répandre l'ordre et la clarté dans ce chaos. C'est, je crois, la préoccupation que j'ai lorsque je suis courbé sur mon papier à faire crisser la plume. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Enfin, nous sommes à l'aube de changements que je ne trouve vieux, monsieur, que je ne peux même pas imaginer. Et si la littérature doit demeurer, et je pense qu'elle a vocation à le faire, quelqu'un qui est encore à patienter dans la salle d'attente des limbes, ou qui est déjà en train de vagir dans son berceau, nous dira le moment venu, ben voilà, telle est la physionomie que le monde
mais a... Sans même lui-même comprendre bien qu'il sûr. Est en train de changer le monde. Changer la littérature.
Exactement, et le monde. La littérature ne vaut pas une minute de peine si elle ne change pas l'idée que nous nous faisions du monde, donc le monde.
Merci beaucoup Pierre Bergougnou d'être venu nous voir aujourd'hui à la Compagnie des auteurs. Je rappelle que votre ouvrage Jusqu'à Faulkner a été publié chez Gallimard en 2002 dans la collection L'un et l'autre et qu'il est toujours disponible. À noter également l'apparition de La Notice aux éditions William Blake. Qu'est-ce que c'est Pierre Bergougnou en un mot?
Ce sont les instructions que le vieux monsieur que je suis devenu se croit autorisé à donner aux petits-enfants qui viennent de naître à Brive en Corrèze.